La revue de presse internationale, bonjour Camille Magnard.
Bonjour.
Les journaux espagnols reviennent ce matin sur la dernière journée d'audience au procès fleuve de 12 dirigeants séparatistes, c'est en Catalogne.
Oui, il aura duré 4 mois ce procès pour rébellion contre l'État des instigateurs du référendum d'autodétermination de la Catalogne. C'était, souvenez-vous, le 1er octobre 2017. Le scrutin avait été organisé malgré l'interdiction des autorités espagnoles et c'est donc sur cette base que les 12 Catalans anciens ministres régionaux pour la plupart sont jugés. Ils risquent de lourdes peines de prison, comme nous l'indique la Vanguardia. Le quotidien de Barcelone revient donc en longueur ce matin sur les derniers échanges hier devant la Cour suprême de Madrid. Il décrit une ambiance de dernière séance faite de soulagement, d'épuisement, mais aussi de tristesse et de frustration. Au terme de 4 mois de ce procès hyper médiatisé en Espagne, écrit donc Carlos Zanon pour la Vanguardia, rien n'est réglé, car il y a des protagonistes de part et d'autre du banc des accusés pour ne pas vouloir régler la question. Mais quelle question d'ailleurs? Ces 4 mois de démonstration judiciaire sont-ils le procès dans le fond de l'indépendantisme catalan? Et à partir de là, comment ne pas entendre ces mots, maintes fois répétés hier dans les dernières paroles des accusés, ces mots de procès politique menés contre eux, mais surtout contre leur cause?
Et ce procès serait donc en fait celui du séparatisme catalan et de la désobéissance civile.
C'est en tout cas à cette vision des choses, d'après ce qu'en écrit El Diario, que c'est résumé la stratégie de défense d'Oriol Junqueras et des siens. Plus à droite, le quotidien ABC explique que les 12 accusés ont tenté une dernière fois hier de se faire passer pour des martyrs. Et ils l'ont fait, nous dit-on, sur un ton qui a pu sembler menaçant. Ils ont déclaré, par exemple, un brin grandiloquent, que du verdict que rendra la Cour suprême en octobre dépendra la pacification ou bien l'aggravation de la situation politique en Catalogne. Nous ne sommes pas 12, mais nous sommes 2 millions devant les juges aujourd'hui. Voilà ce qu'a aussi déclaré l'ancien ministre catalan Raúl Romeva, repris encore par ABC. Mais faut-il entendre là une menace? Pas forcément, plaide plus clémente la rédaction d'El País. Tous les accusés, dans leurs propos conclusifs, ont tendu la main, nous dit-on, vers une solution politique, un dialogue pour faire avancer le débat indépendantiste au-delà de leur propre sort personnel. Est-ce que cela va suffire à remplacer la repentance à laquelle se sont refusés les 12 de Barcelone? À Barcelone, justement, la Vanguardia préfère retenir l'insistance de ces 12-là à rappeler que leur combat est et doit rester pacifique, comme il l'a été le 1er octobre 2017, jusqu'à ce que la police envoyée par Madrid ne tente, en de rares bureaux de vote et sans succès, d'empêcher le référendum d'autodétermination. Aux instigateurs de ce vote interdit, de cette conspiration des pacifiques, l'éditorialiste Carlos Zanon reproche tout de même d'avoir entraîné les Catalans dans un projet idéaliste et dangereux, de s'être laissé griser par l'illusion de leur toute-puissance nourrie de « yes we can » et de « rien ne pourra nous arrêter ». Cette réalité virtuelle se fracasse aujourd'hui sur la rigueur du droit espagnol et la sanction pourrait être lourde lors du verdict qui devrait être rendu par la Cour suprême espagnole à l'automne prochain.
Une information à présent qui part d'Afrique de l'Ouest et qui agite déjà les bourses mondiales.
Oui, c'est le Japan Times au Japon donc qui a attiré mon attention sur cette soudaine flambée constatée hier sur le marché mondial du cacao. Les chiffres ne nous diront pas grand-chose, alors concentrons-nous sur la cause qui nous vient donc du Ghana et de la Côte d'Ivoire. Ces deux pays sont les plus gros producteurs au monde de fèves de cacaoyer. À eux deux, nous apprend le site d'info ivoirien Kouassi, ils représentent 63% de la production mondiale et ils ont décidé de concert de suspendre leurs ventes. Un tel accord entre deux pays voisins, mais surtout concurrents, c'est franchement historique, renchérit le site Africa News, qui détaille la cause commune. Il s'agit ni plus ni moins que de faire pression sur les acheteurs mondiaux de cacao, industriels, financiers et autres spéculateurs, pour que ce ne soit plus eux seuls qui fixent les prix. Le Ghana et la Côte d'Ivoire veulent en fait obtenir qu'un prix plancher soit garanti à leurs producteurs, une rémunération plus juste pour mieux redistribuer aux agriculteurs la richesse produite par l'industrie du cacao. Et en attendant, eh bien, Ghana et Côte d'Ivoire refusent de vendre. A priori, précise Africa News qui reprend des informations de l'AFP, la chose a été négociée entre producteurs, négociants et responsables politiques ces derniers jours lors d'une réunion à Accra. Et le principe du prix plancher à 2 600 $ la tonne de cacao sera officiellement validé le 3 juillet, cette fois à Abidjan. En attendant, pas de quoi s'inquiéter de possibles pénuries de chocolat, nous rassure le Japan Times. Les ventes suspendues depuis hier, elles portent sur les productions à venir, celles de 2019-2020, qui sont, comme c'est souvent le cas avec les matières premières, achetées à l'avance par les négociants. Et les stocks mondiaux de chocolat nous permettront largement de tenir jusqu'au 3 juillet.
Enfin, une bonne nouvelle aux États-Unis. C'est un patrimoine musical inestimable qui est parti en fumée dans les entrepôts d'Universal et on ne l'apprend que 11 ans après les faits.
Et oui, c'est une triste nouvelle et une histoire incroyable que celle révélée en début de semaine par le New York Times Magazine. L'article est titré « Le jour où la musique a brûlé » et il nous replonge dans ce 1er juin 2008, jour où un gigantesque incendie a ravagé les studios Universal d'Hollywood. On avait beaucoup écrit à l'époque sur les studios de tournage de films qui avaient été détruits, sur le parc d'attractions également touché, mais on avait rapidement oublié tous les entrepôts dont le contenu était en partie parti en épaisse fumée noire. Or, parmi eux, malgré ce qu'Universal avait déclaré à l'époque, se trouvait l'essentiel d'un trésor musical, les archives sonores d'Universal Music Group, soit, comme l'affirme The New York Times, plus d'un demi-siècle d'enregistrements originaux de ce qui se fait de mieux en termes de musique populaire américaine depuis les années 1940 jusqu'aux années 2000. Forcément, le magazine Rolling Stone ne pouvait pas passer à côté de cette information tragique. Il détaille les regrettés disparus, et ça fait mal au cœur, hein. Les masters, les bandes originales de sessions studio d'Ella Fitzgerald au rappeur Eminem en passant par Chuck Berry, Elton John ou R.E.M. sont concernés. Un patrimoine disparu à jamais et Universal qui a réussi à cacher au grand public cette perte qui était pourtant, nous expliquons, un secret de polichinelle chez les professionnels de la musique. Et c'est là que l'affaire prend une autre dimension. Elle nous interroge finalement sur le rapport de la musique aujourd'hui à la matérialité de ces enregistrements perdus. Les bandes plastiques ont brûlé sans presque qu'on s'en rende compte et ça nous a pas empêché d'ailleurs de continuer à écouter tous ces artistes. Par contre, tout ce qui n'avait pas été numérisé ou publié a été perdu à jamais. C'est en particulier vrai pour les archives du jazz américain des années 40 ou bien ces enregistrements de la jeune Aretha Franklin quand elle chantait dans l'église de son père. Heureusement, on trouve encore des documentaires vidéo pour mémoire.
Merci Camille Magnard pour cette revue de presse internationale que l'on retrouve sur le site de France Culture, franceculture.fr.